Radio Kapi.
Noëlla Luzitu Kabambi à la présentation.
Grève des chauffeurs de moyens de transport en commun depuis ce lundi matin à Kinshasa. Ils attendent ainsi dénoncer les tracasseries des policiers et des autres services de l'État. Conséquence, les arrêts de bus sont noirs de monde. Sinon, ce sont les taxis motos qui restent disponibles. Mais le ministre provincial de transport qualifie ce mouvement des transporteurs de grève sauvage sans respect de la loi en la matière. Vous suivrez aussi dans ce journal le témoignage de la sœur de l'une des victimes du drame du Stade des Martyrs. Plusieurs personnes sont mortes et d'autres ont été blessées lors d'une bousculade au concert donné par le chanteur de gospel Mike Kalambay. Docteur Kambale Masingwe Esdras est notre invité. Il est le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kitatumba au Nord Kivu. Bonjour à tous. Perturbations dans le secteur de transport en commun ce lundi à Kinshasa. Et pour cause, les chauffeurs ont déclenché un mouvement de grève pour dénoncer les tracasseries policières et des autres services de l'État. De nombreux Kinois éprouvent d'énormes difficultés pour se déplacer depuis ce matin. Le seul moyen de transport disponible reste des motos. Mirandi Fouengi et Arcel Carjouro signent ce reportage.
Sur différents arrêts, beaucoup de gens attendent, dans l'espoir d'attraper un moyen de transport qui ne vient toujours pas. Certaines personnes attendent depuis des heures. Le seul moyen de transport visible reste la moto. Face à cette situation, plusieurs passants se sentent obligés de parcourir de longs trajets à pied. C'est le cas de ce jeune homme.
Depuis ce matin, je constate qu'il n'y a pas de transport. Cette circulation difficile est due à la grève des chauffeurs et motards qui dénoncent les tracasseries. Les gens font les pieds.
Interrogé, les chauffeurs affirment n'avoir qu'un seul problème qu'ils dénoncent, le tracasserie policière.
Ici au rond-point Ngaba, nous n'avons qu'un seul problème, celui des tracasseries policières. Ils nous arrêtent et nous frappent. Dans notre propre pays, nous ne savons pas bien circuler.
Ici sur Assanef, il y a trop de problèmes de tracasseries policières. Ils nous font tomber sur le macadam. Arrêter des véhicules, est-il le rôle des policiers? Et si on laisse ce travail et qu'on se rend tous au palais du peuple, l'État va-t-il nous donner du travail?
Outre le refus de travailler ce jour, les chauffeurs de taxi-bus ont marché dans certains coins de la capitale pour faire entendre leur voix. Au quartier 1, Djili.
Pour sa part, le ministre provincial de transport dénonce ce mouvement des transporteurs qu'il qualifie de grève sauvage, puisque n'ayant pas respecté la loi en la matière. Il parle, entre autres, de la non-notification de leur autorité de tutelle. Il annonce pour cela la tenue d'une réunion cet après-midi avec les responsables des transporteurs de la ville de Kinshasa pour faire le point de la situation et envisager des solutions. On écoute Pius Kandolo, joint par Babel Mpongo Masimango.
Là, c'est vraiment une grève sauvage. Les revendications, nous ne les connaissons pas. On va avoir une réunion avec eux d'ici 12-13 heures. Mais ce que nous avons pendant un moment interdit aux chauffeurs de procéder au demi-terrain. Nous les avons traqués. Tout ce qui faisait de hausse des prix de manière très exagérée. Vous nous avez vu en train de rembourser même la population de somme de trop perçue pour éviter de l'asphyxier autant. Parce qu'on trouvait anormal quelqu'un qui quitte Pascal jusqu'au quartier, il fait payer 1 500. Quelqu'un qui quitte Gare Centrale jusqu'au quartier, il fait payer 5 000 francs. S'ils estimaient qu'il y avait des revendications dans le sens de l'augmentation de prix, ils devraient écrire à l'autorité urbaine pour réunir les comités qui statuent là-dessus. Mais malheureusement, ce qui n'est pas le cas. C'est comme ça que c'est une grève sauvage. Alors, si c'est seulement parce qu'on vous interdit de faire de demi-terrain, si c'est seulement parce qu'on vous interdit de faire de hausse des prix, vous estimez que vous devrez aller en grève, bah écoutez, nous nous assumons, hein, parce que ce n'est pas normal d'accuser cette population.
Parlons à présent du drame qui s'est produit samedi au Stade des Martyrs à Kinshasa lors du concert du chanteur gospel Mike Kalambay et qui a coûté la vie à 9 personnes et fait plusieurs blessés. Que s'est-il réellement passé? Nous vous proposons le témoignage d'une dame qui a pris part à ce concert et qui a failli perdre sa sœur, selon ses témoignages, sa sœur qui l'accompagnait. Pour elle, la corruption des éléments de la police commis à la sécurisation du concert est à la base du drame. Suivez.
J'étais au stade, j'ai assisté. Déjà à l'entrée, c'était pas facile, c'était difficile parce qu'on a déjà remarqué qu'il y avait des billets frappés, c'est-à-dire des faux billets qu'ils ont vendus, que les policiers étaient en train de vendre. En tout cas, si je peux insister sur quelque chose, c'est que les policiers qui ont travaillé au stade ont vraiment fouté, ils ont mal travaillé, ils ont rien fait de bon. Ils ont vendu de faux billets et après, vers 16h, ils ne recevaient plus de billets pour les gens qui venaient en retard. Ils demandaient de l'argent. Et il y avait vraiment un monde fou. Il y avait de l'étouffement à l'intérieur. Même sortir, c'était pas facile, c'était difficile. J'étais avec mon mari, j'étais avec une amie aussi. C'est grâce à cette amie que je suis sortie parce qu'elle avait eu un choc au pied. Vu l'étouffement, elle essayait de sortir, on l'a piétinée et tout, c'est à cause de ça. Pour moi, je dirais que la cause de l'échec, c'est pas vraiment ma job, mais c'est beaucoup plus la sécurité, c'est à cause de ça.
D'autres réactions à ce drame du stade des martyrs, Lamouka accuse les autorités politico-administratives de n'avoir pas fait correctement leur travail. L'artiste Mike Kalamba est lui aussi mis en cause. Le regroupement politique Lamouka lui reproche d'avoir vendu plus de billets qu'il n'en fallait. Suivez plutôt les propos de Prince Epengé, porte-parole de Lamouka.
Les nouveaux drames qui viennent d'écouter la vie à plus de 9 Congolais ce samedi auraient pu et aurait dû être évité par l'anticipation et la prévention des autorités politico-administratives. Le stade des martyrs a une capacité d'accueil de 80 000 places. Comment la police congolaise a laissé entasser et chevaucher comme des sardines plus de 120 000 personnes au stade pour faire plaisir à M. Kalambay. Comment M. Kalambay a vendu plus de billets que de places disponibles au stade? Le 29 octobre 2023, rappelez-vous, le concert de M. Fally Ipupa avait occasionné la mort de 11 Congolais. À son temps, Lamouka avait exigé une enquête et des sanctions. Lamouka exige une véritable enquête pour tirer les conséquences et prévenir d'autres dégâts, mais aussi exige l'indemnisation et des excuses officielles du ministre de l'Intérieur et du gouverneur de la ville qui ont manqué à leurs obligations.
De son côté, Moïse Katumbi, qui réagit sur son compte X, exprime ses sentiments de tristesse, de colère et d'indignation. Le président d'Ensemble pour la République indique aussi qu'il compatit avec les familles de nombreuses victimes décédées ou encore des blessés lors de ce concert. Pour lui, ce terrible drame aurait pu être évité en veillant au strict respect des normes de sécurité pour garantir la sécurité et la protection de chaque citoyen, surtout lors de ce genre de manifestations festives. Enfin, Moïse Katumbi exige que toute la lumière soit faite et les poursuites engagées afin que les responsables soient jugés et sévèrement sanctionnés. Au Nord Kivu, une accalmie s'observe ce lundi dans le village de Ngoliba, entre les agglomérations de Nyangé et de Bibwe, groupement de Bachali Mokoto, territoire de Masisi. C'est après des affrontements qui ont opposé hier dimanche le M23 aux combattants du groupe armé Alliance des nationalistes congolais pour la défense des droits humains de Jean-Marie Bonané. Selon diverses sources locales, les éléments du M23, venus probablement de Mpati, auraient lancé des attaques contre ces combattants dans la zone. S'en sont suivis des affrontements jusqu'en début d'après-midi, avant que les rebelles ne soient repoussés. La société civile de la chefferie de Bachali déplore ces énièmes épisodes de combat survenus au 9e jour de la prolongation de la trêve humanitaire de 15 jours. Dans le territoire de Beni, toujours au Nord Kivu, la société des services Vihumbira SSV, qui exécute les travaux de réhabilitation de la route Butembo-Mangurujipa et de construction de la route Mangurujipa-Bandulu, est préoccupée par la situation sécuritaire dans la région. Elle a été victime d'une attaque attribuée aux rebelles de ZADF dans la nuit de samedi à hier dimanche. Hormis des pertes en vies humaines, ces deux engins excavateurs ont été incendiés par les assaillants. La société recommande des enquêtes sérieuses afin d'identifier les présumés auteurs de cet acte qu'elle qualifie de barbare. Venach Ndaliko, chargé de communication de la société des services Vihumbira, est au micro d'André Kitenge.
La société des services Vihumbira SSV, souvent victime de plusieurs actes de violence et de messages de haine tendant à déstabiliser ses activités et occasionner le sous-développement, recommande ce qui suit. L'ouverture l'ouverture des enquêtes sérieuses tout autour de cet acte de barbarie, le renforcement des dispositifs sécuritaires dans cette zone, l'indemnisation de la part de l'État congolais du préjudice subi et à la population locale de privilégier l'unité et de collaborer avec les services spécialisés pour l'aboutissement heureux des enquêtes. Par ailleurs, la Société des services Viumbira SSV, déterminée pour le désenclavement du secteur de Bapere est longtemps coupé du reste de la province du Nord Kivu suite à l'absence des infrastructures routières, réitère sans solidarité envers la population locale victime des enfrais de la guerre et sollicite l'accompagnement de cette dernière pour un aboutissement heureux de ses travaux qui demeure l'unique facteur de développement du secteur précité.
À Goma, un incendie s'est déclaré dans la soirée de samedi au quartier Mabanga Sud, dans la commune de Karisimbi. Plusieurs maisons sont parties en fumée, mais aucune perte en vie humaine n'a été signalée. L'origine du feu n'a pas encore été clairement identifiée. Chris Mukand.
Cet incident s'est produit sur l'avenue Ikobo à la tombée de la nuit. Les flammes seraient parties d'une maison sans trop de précision sur la cause et rapidement ont entamé d'autres habitations, la plupart construites en bois, renseignent les témoins. Ces mêmes témoins affirment que l'on a d'abord aperçu une fumée au niveau de la cuisine de la première maison où des enfants, en l'absence des grandes personnes, faisaient la cuisson. Ce que ne confirme aucune autre source. Bilan provisoire, 4 ménages se retrouvent sans abri avec tous leurs biens partis en fumée. N'eût été l'arrivée sur les lieux de sapeurs-pompiers de la protection civile de la ville de Goma, les flammes se seraient propagées à plus de maisons encore au regard de l'intensité de l'incendie. Malgré la mobilisation des jeunes et voisins du quartier, ces efforts ne sont pas parvenus à éteindre le feu. Les cas d'incendie de maisons sont devenus fréquents ces derniers temps dans la ville de Goma, souvent liés à la mauvaise manipulation des cuisinières à gaz ou à un court-circuit électrique. En début de ce mois de juillet, c'est l'intervention de la brigade anti-incendie de la MONUSCO qui a évité le pire dans un autre quartier de la commune de Karisimbi. Chris Mukand, Radio Kapi, Goma.
Au Kasaï central aussi, un incendie s'est déclaré à la fin de la semaine dernière au port d'Ilebo, dans les installations de la Société nationale de chemins de fer du Congo, SNCC. Des sources sur place rapportent que des fûts de carburant ont pris feu, consumant des conteneurs des particuliers entreposés sur ces sites. L'information est confirmée par l'avocat conseil de la SNCC qui assure que les matériels de l'entreprise n'ont pas été touchés. Maître Hubert Ngulanjoko, qui a fait part de la situation au gouverneur du Kasaï, indique que la SNCC a interdit l'entreposage des produits inflammables dans ces installations pour éviter ce genre de situation. Ces propos sont recueillis par François Kadima.
Il y a eu un incendie qui fait d'origine inconnue, mais je dois vous dire en toute sincérité qu'en dehors des conteneurs de particuliers, conteneurs de carburant, la société n'a subi aucune perte ou aucun dégât matériel, ni en installation, ni entrepôt SNCC, ni locomotive, ni wagon SNCC. Malgré ce fait d'origine inconnue, le trafic a été maintenu, néanmoins. La société a demandé par l'entremise de son avocat conseil que je suis au gouverneur d'interdire l'entreposage des produits inflammables aux installations et respecter les instructions quand passé pour éviter les désagréments. J'ai été reçu par le gouverneur Kassai par rapport à ça. Je sais qu'aujourd'hui il doit y avoir un courrier adressé à l'administrateur des territoires d'Ilebo pour essayer un peu d'évacuer ou mettre hors état de nuire tout entreposage des inflammables aux installations. Il faut qu'on l'éloigne des inflammables des installations.
Au sud Kivu, le marché Beach Muhanzi, situé dans la commune de Kadutu, à Bukavu, fait l'objet de convoitises de tierces personnes. L'espace de ces lieux publics a été clôturé par un particulier qui affirme en être le propriétaire. Les vendeurs furieux ont démoli la clôture, emportant tous les matériaux. Jean Kassami.
Le gouvernement provincial s'est rendu sur les lieux par le biais de son porte-parole, le ministre des Communications, pour y restaurer le calme. Le gouverneur de province interdit toute démarche tendant à spolier ces marchés qui constituent un centre d'intérêt économique pour les populations de Kalehe, Kabare, Ijwi et de la ville de Bukavu. Tout ce monde-là s'approvisionne en denrées alimentaires de première nécessité au marché Bichemwanzi au bord du lac Kivu. L'exécutif provincial ordonne aux vendeurs de poursuivre leurs activités dans ce marché, mettant ainsi en garde les spoliateurs de tous bords. Le porte-parole du gouvernement du Sud Kivu fait observer que le marché bitemuanzi rentre dans les patrimoines publics de l'État congolais et que la loi foncière dispose que tous les biens rentrant dans les patrimoines publics ou privés de l'État sont hors commerce tant qu'ils ne sont pas régulièrement désaffectés. Le calme est rétabli jusque ce lundi dans le marché bitemuanzi. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
En Ituri, la Fédération des entreprises du Congo FEC Ituri salue la volonté du chef de l'État d'alléger la fiscalité. Cette structure l'a dit ce lundi, trois jours après que le président de la République a, au cours du dernier conseil des ministres, instruit la première ministre de mettre en place une équipe composée des ministres sectoriels pour proposer les taxes, impôts et autres avantages afin de booster le tissu économique dans les provinces affectées par la guerre de l'Est. Cette corporation patronale souhaite que l'application de cette mesure soit effective sur le terrain. Loné Mamoukwa est au micro de Martial Kizabiamungu.
Nous sommes très satisfaits de cette décision du chef de l'État. Nous avons vu que vraiment le chef de l'État a les soucis des provinces sous l'état de siège. Je vois que ça va vraiment favoriser la croissance économique. Dans chaque secteur, il y a des taxes qui sont appropriées à ce secteur. Mais s'il faut alléger toutes ces taxes, ça va vraiment aider les ouvriers, ça va vraiment aider les opérateurs économiques. Le message que je vais leur adresser, les opérateurs économiques, d'être patients, car le chef de l'État a les soucis de développement de notre province en allégeant ces taxes. Et d'ici là, il y aura un grand changement dans leur activité, car une fois si on allège les taxes, je crois qu'il leur sera facile de payer toutes les taxes de l'État pour que notre province puisse bien décoller.
Le projet d'accès aux services d'eau et assainissement, PACEA, sera bientôt mis en œuvre au Kassai Oriental. Une délégation composée du directeur national de l'assainissement, de la directrice de l'hygiène et d'un expert de la Banque mondiale a rencontré le gouverneur de province, Jean-Paul Mbwebwa, le vendredi dernier en Mbujimayi. C'était pour lui parler de différentes activités à mener dans la province dans le cadre de ce projet financé en faveur de la RDC par la Banque mondiale à hauteur de 400 millions de dollars américains. D'après la directrice de l'hygiène, ce projet rural et périurbain a pour but de lutter contre la défécation à l'air libre et contribuer à la réduction des maladies évitables par l'hygiène et l'assainissement.
L'invité.
Au Nord Kivu, 19 aires de santé de Beni, 16 autres de Butembo ainsi que l'hôpital général de référence de Beni et celui de Butembo ont bénéficié des réalisations du projet de renforcement du système de santé au niveau primaire et secondaire. Ce projet de 36 mois consistait au renforcement des capacités des prestataires de santé, à la réhabilitation des structures sanitaires ainsi que de leur dotation en matériel. Pour en parler, le docteur Kambale Masingwe Estra, c'est notre invité. Il est le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Kitatumba. Il s'entretient avec Marc Marofimbo.
Docteur Esdras Kambale, bonjour.
Bonjour.
Que pouvons-nous retenir de ces projets de renforcement du système de santé primaire et secondaire dont vos structures sanitaires ont été bénéficiaires?
Merci pour la question. Il s'est agi du projet UAMSI, UAMSI qui signifie Huduma ya Afya ya Msingi, c'est-à-dire l'appui aux soins de santé primaire. Eh bien, c'est un projet qui a été implémenté dans les deux zones de santé, notamment la zone de santé de Butembo et la zone de santé de Beni. Et il était implémenté par CAIA International, par World Vision, par PPCSSP et FEPSI. Et ce projet a eu à s'étendre sur 36 mois. Et aujourd'hui, nous avons donc eu à participer à cet atelier de clôture de ce projet. En tout cas, les résultats tels que présentés, ce sont des très bons résultats du fait que les niveaux communautaires, les niveaux des hôpitaux et les niveaux des zones de santé et toutes ces couches ont eu à manifester leur satisfaction par rapport aux résultats qui ont vraiment été présentés dans cet atelier.
Et quels ont été les défis majeurs constatés dans les zones et aires de santé où ces projets ont été exécutés?
Il faut dire que ces projets étaient d'abord motivés par la résilience. Comme vous le savez, on a eu à vivre la période des MVE, la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola, là où il y a eu plus de 2000 morts. Vous vous rendez compte dans les deux villes de Beni et Butembo, et ce projet est venu dans le cadre de résilience. Et c'est comme ça que ce projet vient appuyer en fait le système de santé, les soins de santé primaires primaire et il y avait comme grand objectif de pouvoir réduire la mortalité maternelle et la mortalité infantile, donc la mortalité des femmes enceintes et la mortalité infantile, donc des enfants. C'est parmi vraiment les objectifs sur lesquels s'est appuyé ce projet. Selon les résultats présentés, on a réellement constaté cette baisse de la mortalité infanto-juvénile. Mais également, les équipements ont été dotés aux hôpitaux, aux centres de santé. Des réhabilitations profondes ont été effectuées. Et c'est vraiment à la grande satisfaction de tous les participants que nous avons eu à clôturer cet atelier. La population est vraiment satisfaite de ce projet qui a eu vraiment à améliorer le plateau technique des établissements de soins de santé.
Et actuellement, disons, après la fin de ce projet, comment se présente la situation de la santé primaire et secondaire dans les structures sanitaires bénéficiaires et comment peut-on pérenniser ces acquis?
Pour pouvoir pérenniser ces acquis, il faut d'abord une bonne conscience des tenanciers de tous ces projets, de tous ces ouvrages. Donc, il faut que les gens puissent les gérer à beau père des familles, mais également mettre à contribution toutes les formations qu'ils ont eues à recevoir pendant ces 36 mois, parce qu'on a aussi été capacité, beaucoup de prestataires ont bénéficié de beaucoup de formations dans beaucoup de thématiques. Et donc, pour pouvoir pérenniser ces projets, c'est aussi revisiter chaque fois tous ces acquis, les mettre en pratique. En faisant cela, on peut dire que les acquis seront pérennisés. Comme vous savez, les défis sont toujours là, les besoins ne sont toujours pas terminés. Et même si nous disons que le projet a eu à résoudre beaucoup de problèmes, mais il y en a d'autres problèmes qui restent, notamment les infrastructures. Il y a certains centres de santé qui n'ont pas été concernés parce que le projet avait un budget qui était aussi limité. Eh bien, dans d'autres centres de santé, il y a encore ce besoin de pouvoir être réhabilité. Dans d'autres hôpitaux, il y a encore ce besoin d'être équipé, même être réhabilité. Eh bien, si ce projet pouvait encore être renouvelé, il y a encore beaucoup à faire, d'autant plus que les besoins sont toujours là pour pouvoir améliorer les plateaux techniques des établissements de soins de santé, tant au niveau primaire qu'au niveau secondaire.
Docteur Esdras Kambale, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de ce journal mis en onde par Pierre Diassinois et présenté par Noëlla Luzitu Kabambi. Merci de l'avoir suivi.